Bonjour professeur Dean, vous êtes PUPH dans le service de réanimation médicale de l'hôpital européen Georges Pompidou. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans les podcasts de la SRLF Ligne de Mire pour nous parler de la BPCO en réanimation. En pratique, comment régler le respirateur ?
Alors, pour le respirateur, il faut déjà savoir qu'il n'y a pas de règle absolue sur le type de respirateur. Certains centres en font très bien avec des respirateurs de domicile, et à vrai dire, aucune étude n'a réellement comparé ce type de respirateur pour la VNI en aiguë chez le BPC ou un ventilateur de réanimation. Dans mon centre, on est assez fidèle à l'utilisation de ventilateurs de réanimation, dont on sait quand même qu'ils ont des caractéristiques pneumatiques plutôt meilleures que les respirateurs de domicile, mais ce choix peut être différent dans d'autres unités. Il y a un très très large consensus pour choisir un mode ventilatoire en pression, à deux niveaux de pression, une pression expiratoire positive et une pression inspiratoire qui en général sur le mode aide inspiratoire. Alors, pour les réglages, il y a différents points qui vont être relativement importants. Avec les respirateurs de réanimation moderne, on n'a plus besoin d'utiliser des niveaux d'aide inspiratoire trop élevés. Les caractéristiques pneumatiques sont vraiment, vraiment excellentes. C'est d'autant plus important que des niveaux d'aide trop élevés risquent de majorer les fuites. Alors les fuites sont inévitables en VNI, il faut admettre que la VNI c'est un mode où il y a des fuites, il faut s'efforcer de les minimiser. Ce qui est très important, c'est de favoriser la synchronisation entre l'effort musculaire inspiratoire du patient et l'aide que va lui apporter la machine. Et pour ça, un premier paramètre auquel il faut être attentif, c'est le réglage du trigger inspiratoire. Alors, ce trigger, il peut être réglé de différentes façons, soit en pression, soit en débit. L'idée générale est qu'il faut choisir un trigger le plus sensible possible. Pourquoi ? Parce qu'un des phénomènes majeurs chez ces patients, c'est le phénomène d'hyperinflation dynamique ou d'autopump. Et donc, pour que la machine reconnaisse l'appel du patient, si on travaille par exemple avec un trigger en pression, il va falloir que le patient, de par la contraction de son muscle inspiratoire principal, le diaphragme, abaisse la pression dans les alvéoles, du niveau de l'autopep jusqu'au niveau de la pression atmosphérique. Il y a déjà un effort très important à fournir. Il ne s'agit pas de lui rajouter un effort supplémentaire par un trigger mal réglé. Un deuxième point très important, c'est le réglage de la pression expiratoire positive. Alors, cette pression expiratoire positive sur le respirateur vise précisément à contrebalancer ce phénomène d'hyperinflation dynamique et on admet qu'un niveau de pression expiratoire positive modéré de l'ordre de 5 cm d'eau est suffisant dans cette situation, même s'il peut y avoir des exceptions. Un troisième point est le réglage de ce qu'on appelle la pente, la rapidité de montée de l'aide inspiratoire. Si on veut synchroniser au maximum l'effort musculaire du patient et l'aide que va lui apporter la machine, il va falloir travailler avec une pente plutôt raide, c'est-à-dire arriver très rapidement à une montée en pression jusqu'au niveau d'aide inspiratoire souhaitée. Enfin, un dernier élément qui est important à régler, au-delà bien sûr de la classique fraction inspirée d'oxygène, c'est le trigger expiratoire. Alors ce trigger expiratoire va déterminer le niveau, le moment où la machine va arrêter la pressurisation, va arrêter l'aide inspiratoire. Alors, sur certaines machines, il est fixe, et là on ne peut pas le régler. Sur d'autres, on va pouvoir régler ce trigger qui s'exprime en pourcentage du débit inspiratoire maximum. On peut, si on a un trigger expiratoire réglé de façon trop tardive, arriver à une situation où les fuites, qui sont fréquentes avec cette modalité ventilatoire, peuvent entraîner le fait qu'on n'arrive jamais à ce niveau de trigger expiratoire. Dans cette situation, un bon moyen de limiter cette pressurisation prolongée à l'extrême va être de monter le trigger expiratoire, par exemple de 20 à 30, 40 ou 50% du débit inspiratoire maximum. On ne peut pas également ne pas mentionner qu'existent sur les réanimateurs modernes des options VNI. Ces options VNI, elles sont un peu difficiles à comprendre puisque les algorithmes de réglage ne sont pas toujours précisés. En gros, un mode VNI va permettre, un, de compenser les fuites dans une certaine mesure, donc d'assurer une ventilation alvéolaire correcte. Deuxième point, un mode VMI vise à améliorer le cyclage, c'est-à-dire la concordance entre le rythme respiratoire du patient et l'aide que lui apporte la machine. Pour cela, il utilise en général des réglages du trigger expiratoire, tels qu'on les a vus antérieurement, et également une valeur limite maximale pour le temps inspiratoire. Également, certains modes VNI proposent, en cas d'absence d'activité inspiratoire du patient, une pressurisation automatique. Il faut être très vigilant sur ce type d'assistance, puisqu'on peut avoir l'impression que le patient ventile, alors que l'on est dans l'équivalent d'un mode en pression contrôlée. Voilà pour ce que l'on peut dire pour ce qui est des réglages du respirateur.
Quelle place pour les innovations thérapeutiques, oxygénothérapie haut débit et épurateur extracorporel de CO2?
Alors, il y a des innovations thérapeutiques que l'on voit venir ou que l'on va voir venir dans le domaine des exacerbations aiguës très sévères de BPC. Quel est l'enjeu? Même si la VNI est le traitement incontournable, on sait qu'il reste un certain pourcentage, que l'on peut chiffrer à environ 15%, de patients qui vont être en échec de VNI. On définisse l'échec de VNI par le décès en réanimation ou par l'intubation trachéale. Or, ces patients donc ont une mortalité, en particulier s'ils ont été intubés après échec de VNI, qui passe aux alentours de 30% environ, alors que la mortalité hospitalière des patients donc, qui sont traités par VNI avec un succès de VNI est aux alentours de 10%. Cela justifie l'évaluation de thérapeutiques innovantes. Dans le domaine de l'assistance respiratoire, deux innovations principales. Je vais être assez bref sur le premier, qui est l'oxygénothérapie à haut débit, qui est proposée dans d'autres situations en réanimation, qui a été évaluée chez le BPCO à l'état stable, avec un nombre limité d'études, avec un bénéfice en termes d'échanges gazeux et de données mécaniques respiratoires sur certains paramètres. En phase aiguë, il y a actuellement peu de données, mais une étude prospective, multicentrique, comparative, va être prochainement initiée par Jean-Damien Ricard et Christophe Géraud, qui va nous permettre d'apprécier la place exacte de cette technique en complément de la ventilation non-invasive. La deuxième innovation thérapeutique est l'épuration extracorporelle du CO2, à débit faible ou intermédiaire. Il s'agit d'une technique qui est différente de l'ECMO. On travaille avec des débits sanguins extracorporels qui fluctuent entre 300 ml par minute et 1,2-1,5 litres par minute. Et avec de tels débits, ce qui est impossible en termes d'oxygénation devient néanmoins possible en termes de décarboxylation. Au plan physiologique, cela tient au fait que le sang est globalement beaucoup plus riche en gaz carbonique qu'en oxygène. Et avec des systèmes performants d'épuration du CO2, on peut épurer une quantité significative de gaz carbonique. Les deux grandes applications en réanimation qui sont en cours d'évaluation sont le SDRA, dont nous ne parlons pas aujourd'hui, et les exacerbations sévères de BPCO, avec deux cibles principales pour prévenir l'intubation trachéale, donc chez des patients sous VNI que l'on juge à haut risque d'échec, et d'autre part, chez des patients qui auront été intubés pour accélérer le sevrage de la ventilation mécanique invasive.
Pour quels patients et dans quel timing pouvons-nous utiliser ces innovations thérapeutiques?
Pour l'oxygénothérapie à haut débit, donc les propositions d'évaluation, et on en est pour le moment encore une fois uniquement à la phase d'évaluation, sont de cibler les patients en exacerbation de BPCO sévère en réanimation, qui sont traités par de la ventilation non-invasive, l'oxygénothérapie à haut débit étant évaluée dans les intercessions de VNI. L'idée de l'étude qui est envisagée est que la mise en œuvre de l'oxygénothérapie à haut débit permettrait de raccourcir la durée d'assistance ventilatoire par ventilation non-invasive tout en améliorant le confort des patients. Pour ce qui est de l'écor, la première situation est patients donc, qui sont sous VNI et jugés à haut risque d'échec de VNI. Cela renvoie à une question importante et pour laquelle on n'a pas de réponse absolue, qui est de définir ce type de patient et avec quels critères. Dans mon centre, à partir d'une étude récente, l'étude ECHO-ICU, qui évaluait des mélanges gazeux de faible densité, On se fie à la valeur du pH sur les gaz du sang, avec une valeur seuil de pH inférieure à 7,25, soit à l'admission en réanimation, soit sous ventilation non invasive. Cela définit un sous-groupe de patients chez qui la probabilité d'intubation trachéale est multipliée par 3 ou 4 par rapport au groupe de patients qui ont un pH supérieur à 7,25. D'autres critères de prédiction de l'échec de VNI sont proposés par d'autres groupes, mais ne sont pas plus validés pour le moment. Donc on envisage, en l'absence de contre-indications, et notamment de contre-indications d'ordre de risque hémorragique, la mise en œuvre d'une telle technique pour prévenir l'intubation trachéale. Pour ce qui est de la deuxième situation, un patient qui aura été intubé, à quel moment débuter l'épuration extracorporelle du CO2? Là encore, les données ne sont pas très solides et nous sommes en attente d'études randomisées dont on espère qu'elles vont pouvoir être complétées ou initiées très, très prochainement. Mais on peut proposer cette technique, l'épuration extracorporelle du CO2, soit très précocement après l'intubation trachéale, et c'est notre option, ou alors, pour certains groupes, ou dans certaines situations, après un premier échec d'une épreuve de ventilation spontanée. Là encore, cette technique ne doit être envisagée qu'en l'absence de risque hémorragique et dans un centre qui est rompu à cette méthode qui nécessite une formation des équipes.
Quels sont les 3 papiers qu'il faut absolument avoir lus sur le sujet?
Alors, sur le domaine général des exacerbations de BPCO en réanimation, je recommande toujours la lecture d'un vieux papier de David Tuxen, qui est le premier à avoir bien décrit le phénomène d'hyperinflation dynamique chez des patients BPCO et également à l'époque chez des patients asthmatiques, ses déterminants et la façon de le mesurer en pratique. Un deuxième papier important, puisqu'il nous donne des résultats actualisés sur le taux d'échec de ventilation non invasive, est une étude randomisée multicentrique récente, publiée dans le Blue Journal, avec Philippe Joliet en premier auteur, qui évaluait l'intérêt d'un mélange gazeux de faible densité en complément de la ventilation non invasive. L'étude est globalement négative, mais elle permet d'avoir des données actualisées sur le pronostic de ces patients en réanimation. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'épuration extracorporelle du CO2, on peut citer un papier récent publié dans le Lancet Respiratory Medicine, avec Boyle comme premier auteur, qui décrit très bien les questions en termes de recherche et d'application clinique potentielle pour l'épuration extracorporelle du CO2, pour le SDRA certes, mais également pour les exacerbations de BPCO. Il précise également les risques inhérents à cette méthode.
Merci professeur Dean pour ce podcast très intéressant sur la gestion du BPCO en réanimation.